Bonjour, ici Angélique Germain pour votre reportage IJL. À l'heure où les dirigeants politiques du monde entier se réunissent pour la COP26 dans l'idée de prendre des décisions pour faire face aux enjeux climatiques, des incohérences et des paradoxes persistent sur le terrain. On peut déjà citer un engagement pris à Glasgow pour lequel le Canada s'est engagé, mettre fin à la déforestation d'ici 2030. Or, certaines situations requièrent une attention urgente. Exemple, Fairy Creek. Ici, sur l'île de Vancouver, il est question de massacres forestiers pour les uns et d'exploitation forestière pour d'autres. Et au milieu, il y a la police. Des activistes de tout horizon défendent pacifiquement cette forêt ancienne et tropicale autour d'un mouvement, The Rainforest Flying Squad. J'ai voulu aller sur le terrain pour rencontrer ces femmes et ces hommes qui mettent leur vie entre parenthèses pour protéger les arbres. Pour rappel, on parle du plus grand mouvement de désobéissance civile pacifique de l'histoire du Canada. Je suis arrivée sur place dans la matinée du 2 novembre au camp de Roadside, qui se situe en bas de la montagne, au bord d'une route. La fonction de ce camp est de venir en soutien au camp en altitude et aux personnes sur place afin de se relayer. La connexion au réseau via mon téléphone était inexistante depuis déjà une heure de trajet en voiture. À proximité de ce camp, il y a aussi un barrage. Il s'agit d'une barrière installée par l'entreprise forestière Till Jones qui empêche l'accès à la montagne pour les véhicules. Cette route mène aux zones de coupe des arbres, là où sont également les camps des activistes. Il y a aussi plusieurs officiers de police dans des véhicules qui renforcent ce barrage. J'ai participé à la rencontre des membres du camp qui s'est tenu sous un pont proche de la route pour s'abriter de la forte pluie. J'en retiens la bienveillance qui y régnait durant ce partage d'informations de l'extérieur et de là-haut, où il était aussi question de l'organisation de la journée et des tâches à effectuer. Quelques minutes après, je me suis rendue au barrage pour demander aux officiers de la permission d'accéder à la montagne en véhicule pour les besoins de mon reportage. L'accès m'a été refusé par un agent qui ne portait pas de badge ni de nom sur son uniforme. Quelques jours avant, j'avais avisé de ma venue le sergent Chris Manceau, chargé des relations médias et de la communication de la Gendarmerie royale du Canada, à deux reprises par courriel. Sur place, l'argument qui m'a été donné est le suivant. L'officier sur le terrain en charge des relations médias n'est pas là cette semaine et c'est le seul habilité à accompagner les journalistes plus haut. En insistant et demandant plus d'informations, cet agent a indiqué son respect pour la liberté de la presse et mentionné que je pouvais tout de même y aller à pied. Pour information, Helicamp se situe à environ 5 à 7 heures de marche du barrage. Je suis donc restée au camp de Roadside. J'ai pu échanger avec quelques activistes, dont quelqu'un qui a déjà été impliqué dans différentes actions de désobéissance civile en France et qui est à Fairy Creek depuis plusieurs mois. Son nom de camp, c'est Joy. On l'écoute.
Et originellement, les premières personnes qui sont venues à Fairy Creek, ils sont allés à Reach parce que c'est l'endroit où ils veulent continuer à construire la route pour pouvoir accéder à Fairy Creek. Et du coup, le premier endroit qui a été occupé, c'était Ridge, pour les empêcher d'accéder à Fairy Creek, qui est un lieu sacré pour les First Nations. Et autour de cette terre, il y a plusieurs cut blocks qui étaient approuvés. Et Ellie Camp, c'est un énorme cut block. Et River Camp, il y a des arbres qui sont genre majestueux, qui sont magnifiques. Et c'est aussi des cut blocks qui ont été approuvés. J'étais pas là pour le choix, mais le camp qui a été établi en premier lieu, Reach, a été l'endroit où ils ont stoppé l'industrie la première fois. Et le camp qui a été établi en premier lieu, c'est River Camp, qui bloque l'accès justement à ces arbres majestueux et à tous les immenses cut blocks qu'il y a à Ellie Camp et dans lesquels ils sont en train de travailler dessus. L'objectif, c'était d'empêcher la police et de, par le fait de bloquer la route, d'empêcher l'industrie d'accéder au cut block et de pouvoir couper la old growth. Et pendant ce temps-là, on construisait des hard blocks. C'est des structures dans lesquelles les personnes peuvent loquer leur bras ou une partie de leur corps. Et après, la police prend du temps pour les extraire. Et du coup, le but du jeu, c'est de construire assez de hard blocks pour gagner du temps, pour empêcher que la police puisse accéder au cut block, et par le fait que la police accède, l'industrie puisse couper les arbres. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant longtemps, Granite Main, qui est la route qui mène à Ellicain, était bloquée, et la route qui mène à Ridge aussi était bloquée par des hard blocks. Et là, ça fait plusieurs semaines que la police a accès à ces routes, et du coup que l'industrie est capable de monter et de couper dans ces cut blocks. Et ce qui s'est passé, c'est que On a perdu la route une première fois et la stratégie qui a été adoptée, c'était de se cacher aux endroits où ils coupaient et de notifier notre présence. Ce qui faisait qu'ils pouvaient pas couper les arbres sur les personnes cachées dans les cut blocks. Ils essayaient de les trouver jusqu'à qu'ils aient trouvé tout le monde. Et ça a fonctionné très bien jusqu'à il y a quelques jours où ils ont commencé à couper des arbres sur les personnes qui étaient cachées dans les cut blocks. Et en fait, ils savaient très bien qu'il y avait plusieurs personnes aux endroits où il y avait de la coupe d'arbres. Et ils coupaient quand même pour faire peur au monde. Mais la RCMP, et notamment l'équipe à Charney, Sergeant Charney, qui était là la semaine précédente, a permis de faire ça. J'étais à Ridge à ce moment-là et je suis descendu à Ailey. Il y a un tree seat à Ailey dans lequel une personne est suspendue dans un arbre sur un espèce de hamac. Un peu les mêmes genres de hamac qu'on utilise en escalade. Du coup, cette personne était seule dans l'arbre. Tout le monde était caché dans les cut blocks. Et moi, je redescendais de la montagne. Et quand je me suis levé, j'ai vu qu'il y avait une dizaine de loggers. Je ne les ai pas comptés tous là. Mais à l'endroit où les personnes étaient cachées dans le cut block est devenu assez grand parce qu'ils ont continué à couper depuis les dernières semaines. Et aux endroits où les personnes étaient cachées, ils faisaient tomber des arbres. Du coup, j'ai réalisé, je pensais que tout le monde s'était fait arrêter, tout le monde s'était fait trouver dans le cut block par la police ou par les loggers et fait descendre en bas de la montagne. Du coup, je suis pas parti pour pas laisser le tree seat tout seul, pour pouvoir lui donner de la bouffe et puis lui le supporter. Et en fait, tout le monde était toujours dans le cut block, excepté une personne. Et il continue à couper des arbres. Plusieurs personnes ont eu des arbres qui sont tombés très près d'eux. Ce qui se passe, c'est quand on se cache dans les cut blocks, on est en dessous d'arbres qui sont déjà tombés. Et on essaie de se mettre près des souches ou dans des trous pour être à peu près protégé parce qu'on... On craint justement le fait qu'ils fassent tomber des arbres, ce qui n'était pas arrivé précédemment, ou très peu. Et ce qui s'est passé, c'est que des personnes ont vu des arbres, genre, juste modifier la structure du trou dans lequel ils étaient parce qu'ils faisaient tomber des arbres par-dessus eux, quoi. Genre les arbres qui étaient déjà tombés, genre, changer de place et bouger, quoi. Ils auraient pu se faire, je sais pas, là, genre... knocked out par un arbre ou genre tué par une branche qui juste tombe à l'endroit où ils sont et puis genre... Ou genre, on a une personne qui est sortie du cut block à ce moment-là, ce jour où ils ont fait tomber des arbres sur du monde qui était encore caché. Et on savait pas parce que tout le monde est spread out, étalé dans le cut block. Et du coup, quand t'es caché, tu peux pas voir les personnes qui vont s'échapper du cut block. Et en fait, cette personne s'est fait reconduire en bas de la montagne par la police, mais nous, on ne le savait pas. Du coup, on croyait qu'elle était toujours à l'intérieur et qu'elle était genre toujours dans son trou, peut-être bloquée ou knocked out ou whatever. Et du coup, on a cherché tout le cut block. Et après, avec Roadside et le temps que prend les devices GPS, en fait, elle s'était fait arrêter, mais elle aurait pu être... en danger de mort dans un cut block, quoi, sous des arbres.
Ce qu'il appelle les cut blocks sont les zones de coupe des arbres, et les loggers, les bûcherons. Je lui ai posé une autre question pour en savoir plus sur ce qui se passe sur le terrain, en haut, qui ne lui semble pas normal, voire pas légal. On prend le temps de l'écouter.
Bah, énormément de choses, là. Déjà, la première chose, c'est qu'ils ne respectent pas, comme vous avez pu le voir ce matin, l'accès aux médias. Genre... un bon nombre de fois, ils n'ont pas respecté l'accès aux médias, ils ne nous laissent pas filmer les extractions. Ils font des exclusion lines qui sont genre immenses, où tu vois presque pas ce qu'ils font pour pouvoir mettre en danger les personnes qui sont dans les hard blocks. Et moi, personnellement, ce que j'ai observé, c'est que quand je suis arrivé les premiers mois, je connaissais même pas cet endroit, je suis arrivé par hasard. Et au début, je croyais même pas que c'était possible de pouvoir couper la old growth parce que j'ai grandi dans un pays où il y en a pas. Et la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, c'est pas possible, tu vas pas couper. Genre, ta plus belle richesse que t'as, une des plus belles richesses que t'as. C'est un des endroits les plus beaux que j'ai vu au Canada depuis que je voyage. J'ai jamais vu des arbres de même dans ma vie et je travaille avec les arbres. Et au départ, quand ils ont commencé à renforcer l'injonction, ils jouaient le jeu de la désobéissance civile dans le fait qu'ils maltraitaient pas les personnes qui étaient loquées dans les hard blocks. ils laissaient l'accès aux médias, ils n'étaient pas ultra violents avec les personnes qui étaient autour. Et quand ils ont commencé à quand le fireburn était fini et que l'industrie du bois était autorisée à couper, c'est à peu près la même période où ils ont raidé HQ. En tout cas, quand ils ont commencé à raider HQ, ils ont changé leur degré de violence dans le fait qu'ils ont commencé à faire des extractions ultra dangereuses où des personnes étaient dans des tranchées. Ils ont cassé le bras d'une personne juste en la tirant. Ils utilisaient des points de douleur pour obliger les personnes à unlocker. Et ils ont commencé à extraire... Une des manières qu'on bloquait la route, c'était de construire des tranchées. Et les personnes étaient dans un dragon. Un dragon, c'est une structure en métal dans laquelle tu peux mettre ton bras. Et avec un bracelet, locker ton bras dans un dragon en PVC ou en métal. Et ce dragon est au fond de la tranchée. Ce qui veut dire que s'ils veulent l'extraire, ils ont besoin de creuser autour de la tranchée et accéder au dragon. Mais la tranchée est creusée dans de la terre et c'est hyper instable. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à les extraire avec des énormes machines. Et on les a vus mettre en danger la vie de plusieurs personnes dans le fait qu'il y a des cailloux ou des parties de la tranchée qui tombaient sur des personnes. Et c'était juste, genre, pas correct. Il n'y avait rien de normal là-dedans. C'était juste qu'ils voulaient avancer et puis ils voulaient aller le plus vite possible. Et ils faisaient des extractions ultra dangereuses. Ils ont fait tomber des personnes de tripod, des personnes qui étaient suspendues dans des tripods. On les a vus, genre, ils savent que c'est une structure qui est pas forte. C'est stable dans le fait que tant que tu joues pas avec la structure, quoi. Et ils ont commencé à essayer de bouger un tripod à la main avec plusieurs policiers. Et puis toute la structure a collapsé. La personne est tombée de genre 5-7 mètres droit sur le sol. Ils ont eu de la chance parce que personne n'est mort.
Dans la discussion, j'ai demandé à Joy le positionnement des communautés des Premières Nations concernées. Il me répond qu'il n'est pas la bonne personne pour en parler. Il indique seulement ce qui suit, puis il poursuit la discussion.
Bill Jones et Dr. Peter et plusieurs autres elders soutiennent la lutte parce que je pense qu'ils ont pris conscience que ces arbres ont genre pas de prix dans le fait qu'ils sont plus vieux que tout ce qui existe sur Terre. C'est une part de nous-mêmes qu'on coupe parce que c'est des arbres qu'on respire et l'air qu'on respire, c'est des arbres qui genre ont traité l'eau qu'on boit, c'est des arbres qu'on vu plus de choses que n'importe quel être humain sur cette terre. Et je pense que ça n'a pas de prix d'un point de vue écologique et spirituel. C'est pas quelque chose qu'on peut sacrifier au détriment d'un quelconque profit qui va juste enrichir majoritairement une compagnie privée et non pas les communautés locales.
On aborde ensuite l'impact environnemental.
Les arbres sont vivants en tant que tels, mais aussi ce qui gravite autour des arbres, c'est tout un écosystème avec des espèces qu'on n'a pas forcément identifiées génétiquement parce que c'est ultra riche comme écosystème et c'est un écosystème qui est irremplaçable. On n'a pas le temps au rythme dans lequel notre société se construit de pouvoir remplacer ces écosystèmes-là. Ça veut dire que c'est aussi genre on se prive de l'identification d'espèces qu'on connaît pas et qui peuvent potentiellement sauver des vies dans le futur, dans le fait que tous les médicaments qui sont issus de l'industrie pharmaceutique, ils ont une base naturelle et ils ont un code génétique qui est issu d'espèces naturelles. Ça a pas de bon sens. Et quand tu te balades dans ces forêts, c'est juste, il y a des champignons partout, il y a de la mousse, c'est beau, c'est magnifique, c'est juste incroyable. Et tu peux boire de n'importe quel creek, même là je l'ai bu tout l'été et genre j'ai jamais bu de l'eau aussi bonne, quoi. C'est pur, ça a été genre en dehors de l'impact de l'être humain des centaines et des centaines d'années, mon point de vue ça doit le rester, ou ça doit devenir un espace dans lequel les personnes puissent venir et le découvrir dans le respect des First Nations et dans le respect des êtres vivants qui vivent là.
Joy termine par un court message qu'il tient à faire passer.
C'est juste de voir la richesse dans autre chose que l'argent. Et dans le fait que détruire ce qu'on peut transmettre aux futures générations dans un contexte de réchauffement climatique et d'impact écologique ultra négatif, je pense qu'il faut revoir notre, notre focus.
Sur un communiqué de presse de la compagnie Till Jones du 29 septembre dernier, on peut lire « Nous continuerons à poursuivre pacifiquement nos activités forestières dans Tree Farm License 46, c'est-à-dire à Fairy Creek. » Je cite également un autre passage de ce même communiqué. « Nous récoltons certaines vieilles pousses et elles ont des caractéristiques uniques nécessaires pour certains produits à valeur ajoutée. » Puis plus loin, j'ai pu lire « C'est un mythe que les vieilles forêts de la région sont en danger. » Récemment, on a pu voir sur les réseaux sociaux des vidéos d'activistes prises au large de Nanaimo de bateaux remplis de bois supposés partir à l'export. J'ai demandé au contact média de la compagnie Till Jones à quelles utilisations était destiné le bois de Fairy Creek ainsi que la confirmation d'une éventuelle exportation. La seule réponse reçue a été, je cite, « Till Jones est un fabricant à valeur ajoutée. Toutes ses usines sont ici en Colombie-Britannique. Il n'expédie aucune bûche brute. Au camp de Roadside, j'ai rencontré Foxy, c'est son nom de camp, une maman d'une jeune fille de 17 ans qui est dans un camp sur les hauteurs de la montagne. Je lui ai posé quelques questions pour en savoir plus au sujet de sa fille, des risques et comment elle vivait la situation. »
Les camps, ça dépend, ça prend plusieurs mondes. C'est juste comme 5 personnes, c'est dur de faire quelque chose. Mais si t'as 30 personnes, là tu peux empêcher la coupe d'arbres. Qu'est-ce qu'ils ont fait récemment, ou c'est qu'ils sont en train de couper les arbres, c'est de juste être proche d'où est-ce qu'ils coupent les arbres. Puis ils sont habituellement, les lois, c'est que tu ne peux pas couper un arbre s'il y a quelqu'un en deux lengths, tree lengths, dans la même vicinity, d'où est-ce qu'ils coupent les arbres. Alors, s'ils sont là, ils ne sont pas censés couper des arbres, mais ils les coupent pareil. Alors, c'est dangereux parce qu'il y a des arbres qui tombent pas loin d'eux. C'était peurant pour moi, comme être une mère, avoir ma fille en haut là, mais il n'y a pas grand-chose que je peux faire. Elle a 17 ans.
Elle poursuit.
Le nom du camp, ça change tout le temps. Il y a tout le temps des... ça bouge, ça change de nom, ça se fait détruire. C'est toute une belle petite famille. Là-bas, tout le monde travaille pour le même but, qui est de sauver les arbres. Et puis, avec ma fille qui était ici tout l'été, je suis venue la visiter. J'ai rencontré le monde qui sont alentour d'elle. J'ai pas direct contact avec elle quand elle est sur la montagne, mais... tout le monde alentour qui ont des Garmin et tout ça, et ils me tiennent au courant de qu'est-ce qui se passe. Et puis, elle a beaucoup de support. Elle a à peu près 3-4 mamans là-haut qui gardent leurs yeux sur elle pour être sûre qu'elle soit correcte. Présentement, il y a beaucoup de pluie, alors c'est toujours un risque, parce que c'est dans une montagne, fait qu'il peut y avoir des landslides, il peut y avoir des floods, mais aussi quand qu'ils essayent de bloquer les rues, c'est un risque aussi avec les polices qui les extraquent. Ma fille, elle a eu une commotion cérébrale. Elle s'est fait cogner la tête dans une de ses extractions. Et puis, oui, elle était très malade pendant une couple de jours. Il a fallu l'emmener à l'hôpital. C'est un peu épeurant, mais malgré tout ça, elle est toujours aussi passionnée, puis elle ne peut pas s'empêcher de revenir pour sauver les arbres. C'est une passion.
Ensuite, elle évoque ceci.
Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont vraiment passionnés à cette cause-là. Et puis, ça ne me surprend pas parce qu'on les élève comme ça. On les élève avec toutes les cartoons, les bonhommes qui regardent quand ils sont plus jeunes à propos de la nature, comme le film Le Lorax ou Avatar. On veut tous... on les élève comme ça. Et puis, quand qui se montrent passionnés à sauver les arbres, et puis ils sont punis. Ils sont surpris que la plus jeune génération veut sauver la nature. C'est drôle comment ça marche.
Elle poursuit.
C'est vraiment le mouvement. C'est quelque chose qui va sûrement créer des nouvelles lois. C'est ça qu'on on espère que ça va créer de nouvelles lois dans la foresterie, de comment qu'ils vont loguer au lieu de faire des clear cuts, de faire du selective logging, qu'ils appellent. Alors, c'est juste, on voudrait que le gouvernement revampe la manière qu'ils font la coupe d'arbres, as opposed to avoir de couper complètement. Il n'y a pas rien qui va pousser après ça pendant des années.
Revamp?
Revamp, renouveler. On n'en reverra jamais plus ces arbres-là, les seuls qui coupent, c'est sûr. Puis aussi le écosystème qui vient avec tout le plantes qui poussent alentour, des plantes natives. Ça revient pas comme ça. Même si tu replantes des arbres, ça sera jamais un old growth.
Pour ce reportage, j'ai aussi échangé avec Marlene Hull par téléphone de la communauté Première Nation Wet'suwet'en, chef de cuisine de profession et également activiste. Elle s'est rendue à Fairy Creek et s'engage de différentes manières pour empêcher la coupe des cèdres de cette forêt primaire. Dans notre conversation, elle a témoigné de la violence de la police sur le terrain, en mentionnant les nombreuses arrestations. Ce qui fait écho aux paroles de celles et ceux que j'ai rencontrés sur place, qui m'ont raconté que régulièrement les véhicules des activistes étaient vandalisés et ouverts de force. Tout le matériel, la nourriture et les vêtements qui s'y trouvent sont volés par les officiers de police. En plus des camps qui sont démantelés. Joy laissait son matériel de travail à l'abri dans un camion fermé à clé. Il avait des outils et autres objets techniques de valeur. Le camion a été ouvert de force et il a tout perdu. Pour revenir à ma discussion avec Marlene Hale, elle a évoqué la prise de position des communautés locales. Je la cite. À part les chefs qui ont passé un accord avec Till Jones, la plupart soutient le mouvement de désobéissance civile qui vise à faire réagir le gouvernement qui refuse d'agir pour prendre des mesures de protection de l'écosystème de Fairy Creek. Fin de citation. Entre la protection de la nature, de tout un écosystème unique, en présence d'arbres qui datent pour certains de l'époque de Jésus-Christ, voire plus, et l'économie florissante d'une industrie forestière, les injonctions du tribunal, sans parler des prises de position extrêmes de certains officiers de police affichant sur leur uniforme la fine ligne bleue, le sujet de Fairy Creek est aussi sensible que complexe, bien qu'urgent malgré les objectifs de la COP26 de mettre fin à la déforestation en 2030. On termine ce reportage avec le message que souhaite faire passer Foxy, puis ce qui suit.
Je crois le plus important c'est de faire de spread, like create awareness, que le monde sache c'est quoi qui se passe. Alors si tu fais tes recherches et tu vois ce qui se passe, d'en parler, parle-en avec tes amis, ta famille. Le plus de monde qui savent c'est quoi qui se passe, le plus on va avoir plus de chances de faire une différence. Aussi, si vous êtes sur l'île de Vancouver, de venir voir ou de venir faire à manger pour nos petits guerriers qui sont sur la montagne. Alors, il y a beaucoup de manières. Et si vous êtes trop loin, peut-être de la donation pour de l'argent, pour... des rain gear, il pleut, c'est une rainforest, alors il pleut beaucoup. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez aider. Joindre le groupe de Fairy Creek. Juste le support émotionnel, c'est gros pour le monde qui sont sur la montagne, puis qui ont froid, qui sont mouillés.
Je tiens à remercier tout particulièrement Alexandre Salaté, sans qui ce reportage de terrain n'aurait pu se faire.